Et merci d'avoir choisi Radio Présence qui s'intéresse à l'actualité et à la vie dans nos diocèses. Et aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles.
Dans un mois tout juste, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Oui, tout à fait. Le 16 octobre prochain, coup d'envoi de ce rendez-vous annuel, Pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. Coup d'envoi donné, comme chaque année, par les enfants. Les élèves des classes de la CP au CM2 se retrouveront dans la cité mariale avec leurs enseignants, avec toutes les équipes éducatives pour découvrir le message de Lourdes et le visage de Sainte Bernadette. Ce sera une journée vraiment festive pour tous ces enfants. Et puis ensuite, eh bien, ça continue pour tous les Bigourdans.
Exactement. Quel est le programme par tranche d'âge.
Alors effectivement, vous avez raison de le dire, comme chaque année, il y a des propositions qui sont faites par tranche d'âge, mais d'abord ce qu'il faut dire, c'est que la première proposition, la plus importante, si je puis dire, c'est celle qui est faite pour les personnes malades, âgées ou en situation de handicap. Elles seront accueillies et accompagnées par l'hospitalité de Bigorre à partir du samedi 18 octobre jusqu'au mardi 21 octobre, et les hospitaliers, les brancardiers seront là pour les accompagner, mais aussi les JHO. Les JHO, ce sont ces lycéens qui font le choix d'être jeunes hospitaliers, c'est-à-dire de découvrir le service du frère. Ils sont aidés et guidés pour cela par les hospitaliers et hospitalières plus expérimentés. Et ces lycéens, eh bien, ils ont 4 jours pour découvrir le service du frère avec l'hospitalité de Bigorre. Voilà, donc ils font ce choix vraiment de passer leur pèlerinage au service, et puis les autres lycéens, les lycéens qui ne se sentent pas forcément appelés à ce service-là, peuvent proposer d'autres services, notamment pour l'animation, puisque il y a aussi besoin de talents d'animateurs, notamment auprès des collégiens, les collégiens qui eux aussi ont un programme incroyable de 3 jours du samedi 18 au lundi 20 octobre, 3 jours avec des temps qui sont proposés avec tous les autres pèlerins, mais aussi des temps juste pour eux, notamment des randonnées, des jeux, des veillées festives, bien sûr, des temps de témoignage, des temps de rencontre vraiment faits pour eux, quoi.
Alors, ce pèlerinage a été pensé pour qu'il y ait des moments pour tous, hein, vraiment pour tout le monde.
Oui, alors, et c'est marrant d'utiliser ce terme, pèler pour tous, parce que dans les propositions assez spécifiques, j'ai pas mentionné, mais c'est très important, cette proposition sur 2 jours qui s'appelle le pèler pour tous, eh bien, c'est pour ceux qui ne sont pas lycéens, pas collégiens, pas pèlerins avec l'hospitalité, mais qui souhaitent quand même se poser à Lourdes. Et on leur propose eh bien, de prendre 2 jours, samedi 18 et dimanche 20 octobre, pour vraiment prendre 2 jours, se poser 2 jours à Lourdes et se faire pèlerin d'espérance. Ils auront des temps de rencontre rien que pour eux, des temps de partage également, et puis le reste du temps, ils pourront rejoindre tous les autres pèlerins. Alors, vous l'avez bien dit, Gilles, il y a des rendez-vous qui sont vraiment pour tous, gratuits, sans inscription. Ce sont les fameux rendez-vous auxquels eh bien, tout le monde peut participer. Alors, on peut venir un petit peu chaque jour. Voilà, on fait son programme, et c'est très bien pour les personnes qui sont un peu loin. Ça commence le samedi 18 octobre avec une journée qui sera orchestrée, si je puis dire, avec la fraternité Saint-Laurent de Lourdes, qui commencera à 10h avec un temps de partage de la parole de Dieu sur ce thème, l'espérance ne déçoit pas. Et puis, il y aura un pique-nique convivial et l'après-midi, des démarches de pèlerinage dans le sanctuaire ou bien le chemin du jubilé. Tout ça se fera en groupe. Hein. L'objectif, quand même, au fond, c'est toujours la rencontre. Et puis, à 16h30, donc toujours ce samedi 18 octobre, il y aura la messe d'ouverture du pèlerinage avec les pèlerins malades et les hospitaliers.
Autre temps fort, j'imagine, le dimanche avec la messe diocésaine.
Exactement. Alors, le dimanche 19 octobre, ce sera même plus que la messe diocésaine. Ce sera vraiment une journée de festival de l'espérance, un vrai festival pour être tous ensemble vraiment pleinement pèlerins de l'espérance. Ça commencera à 10h en l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire avec un accueil. Et puis à 10h30, vraiment le lancement de la journée avec notre évêque, Monseigneur Mika. À midi, nous irons tous prier ensemble l'Angélus à la grotte, et puis il y aura un pique-nique festif dans la prairie. En cas de pluie, nous nous replierons dans l'église Sainte-Bernadette. Et puis à 13h30, alors là, c'est l'idée originale, une farandole de desserts. L'idée, c'est que chacun apporte un dessert de son coin de la Bigorre ou de sa vallée à partager. C'est aussi un moyen de se rencontrer. Alors bien sûr, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'une farandole de desserts vient faire dans une journée de pèlerinage? Vous avez bien compris, Gilles, que les desserts sont une excuse pour se rencontrer, pour échanger, pour découvrir les autres personnes qui viennent des autres vallées, des autres paroisses. Voilà, donc nous aurons ce temps de farandole de dessert avec l'occasion de témoignages et de diverses surprises qui sont en train de s'organiser. Puis à 15h30, nous irons prier le chapelet à la grotte et à 16h20, messe en l'église Sainte-Bernadette. La journée du dimanche 19 octobre se terminera avec la procession mariale à 21h.
Voilà pour le pèlerinage de la Bigorre. Les informations pratiques, on peut, j'imagine, les retrouver sur le site internet. Est-ce qu'il y a nécessité de s'inscrire ?
Alors, il y a une nécessité de s'inscrire pour les lycéens, pour les collégiens, pour les fameux pèlerins pour tous qui veulent venir pendant 2 jours. Et puis, on n'a pas mentionné, mais vous pourrez le voir sur le site du diocèse, la journée du dimanche aussi avec ce programme pour les enfants du caté. Et eux s'inscrivent via leurs catéchistes dans les paroisses. En tous les cas, tout cela est noté sur le site du diocèse catholique65.fr/pelledio, et très bientôt dans les bulletins diocésains qui vont être distribués dans vos paroisses, vous pourrez avoir toutes les informations également.
Alors pour terminer, on redonne les dates, c'est à partir du jeudi 16 octobre, hein, 16 octobre, le week-end du 16.
Jeudi 16 octobre, coup d'envoi avec les écoles, et puis voilà, on se retrouve à Lourdes. Environ 5000 pèlerins, hein, de la Bigorre et des Quatre Vallées viendront à Lourdes durant 5 jours pour se faire pèlerin d'espérance, voilà, à la suite de la Vierge Marie.
Voilà, à noter que ce sont les vacances scolaires, hein, ça tombe le week-end des vacances scolaires, premier week-end.
Exactement, voilà. C'est un bon moyen de mettre les pieds dans les vacances, voilà.
Allez, un peu plus proche de nous avec ce week-end, ce sont les journées du patrimoine partout en France, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, énormément de propositions. On va commencer en prenant la direction de la Vallée d'Or, direction le petit village de Gézeau qui se trouve à 820 mètres d'altitude, et l'église de ce village est lauréate de la mission patrimoine cette année.
Exactement, vous l'avez bien dit, Gézeau est vraiment un petit village dans la Vallée d'Or. Son église romane Notre-Dame et Saint-Laurent datent du XIIe siècle et elle a conservé de cette époque le chevet arrondi, voûté en cul-de-four, ainsi que la nef rectangulaire avec le plafond qui est voûté lui aussi. Entre le XIIIe et le XVe siècle, l'église de Gézeau a été décorée de peintures à la détrempe. Il en reste quelques vestiges juste derrière le retable. Au XVIe siècle, elle a été partiellement détruite suite à un incendie probablement provoqué pour désinfecter le village avec le feu suite à une épidémie de peste. Et puis, vous voyez que l'église de Gézeau nous raconte beaucoup de choses. Dans le cœur toujours de cette église, le retable du style Renaissance a survécu à la contre-réforme. Il est vraiment unique dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres de cette époque, mais c'est vraiment dans cette église est une des particulières. Elle est ornée de 3 niches qui abritent des statues du XVe siècle et puis des panneaux peints qui représentent notamment un miracle de Saint-Jacques le Majeur, le miracle du pendu dépendu. Alors cette église de Gézeau, elle est tout à fait particulière puisqu'elle est fréquentée par les pèlerins qui marchent sur les chemins de Saint-Jacques. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1971 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre justement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 1998. Alors, au cours des dernières années, la commune de Gézeau a réalisé pas mal de travaux, en tous les cas une tranche de premiers travaux assez importants, et puis elle doit continuer maintenant. Et c'est pour ça qu'elle a candidaté, qu'elle a été lauréate de la mission patrimoine cette année, en 2025. La mission patrimoine, vous savez, c'est la mission Berne, et cela va permettre à la commune de poursuivre les travaux de restauration. Alors, vous pouvez aller voir cette église de Gézeau ce week-end pendant les journées du patrimoine, ce sera l'occasion de voir de vos yeux tout ce que je viens de vous dire. Mais il y a
voilà,
encore beaucoup de choses.
Vous avez donné envie, en tout cas ça se trouve dans la Vallée d'Or, à peine un peu plus de 800 mètres d'altitude, donc ce village de Gézeau, direction l'église d'Aurignac, avec un rétable qui est magnifique, vraiment à découvrir, pas loin de Bagnères de Bigorre.
Oui, c'est à 7 km de Bagnères de Bigorre, vous pouvez visiter l'église Saint-Martin d'Aurignac avec son magnifique ensemble baroque, maître-autel, tabernacle, baldaquin. Ce sont des œuvres de la maison Ferrer, sculpteur bigourdan bien connu du XVIIIe siècle. Il y a aussi cette peinture de la voûte du chœur qui est absolument unique en Bigorre. Et puis ces tableaux de la nef qui sont des reprises de toiles de maîtres français-italiens des XVIe et XVIIIe siècles. Hôtel, tabernacle, baldaquin, tous se sont classés monuments historiques. Ce week-end, vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette église grâce à la mobilisation de bénévoles hein, qui sont là pour vous accueillir et commenter une visite. L'église sera ouverte samedi et dimanche de 15h à 18h. L'entrée est gratuite, bien sûr. Vous pouvez entreprendre une visite libre ou bien vraiment profiter de la connaissance de ces bénévoles. J'indique quand même que dans ce village d'Aurignac, c'est absolument remarquable de voir comment les habitants et notamment Monsieur Gérard Latour se mobilisent depuis des années pour entretenir, rénover cette petite église. Vraiment bravo à tous ces bénévoles.
Voilà, ce village s'appelle Aurignac, pas loin de Bagnères de Bigorre. Après Bagnères, on repart du côté de Tarbes. À côté de Tarbes, à Maumères. Alors vous avez choisi Maumères puisque c'est là où est né l'abbé Peyramale.
Exactement, vous dites presque tout ce que je voulais dire. Effectivement, Maumères a cette église placée sous le patronage de Saint-Christophe. Vous pourrez y découvrir, admirer les fresques qui ont été restaurées. Et effectivement, pourquoi cette église? Eh bien, parce que elle est un petit clin d'œil historique à Lourdes, puisqu'effectivement, Maumères est le village natal de l'abbé Peyramale, le curé de Lourdes, au moment des apparitions. Il y a beaucoup d'églises à voir dans les Hautes-Pyrénées, mais je voulais faire ce petit focus sur le village de Maumères. Voilà, petit clin d'œil à l'histoire de Lourdes.
Après Bagnères, Tarbes, on remonte. Direction maintenant Sarriec de Bigorre avec vous pour ces journées du patrimoine.
Direction le Val d'Adour à côté de Rabastens de Bigorre. Sarriec-Bigorre, c'est un petit village avec une église paroissiale placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption. Elle a été construite en quatre étapes, si je puis dire, quatre périodes, 14e, 15e, 17e et 18e siècle. Il y a notamment ce retable et baldaquin de la maison Ferrer, encore une fois, et cette église de Sarriac-Bigorre a été classée monument historique depuis 1952. Là encore, c'est une église que vous pourrez visiter ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine.
Alors c'est une sélection de lieux à visiter, mais
oui,
il y a
sûr.
Évidemment beaucoup d'autres lieux. On n'a pas parlé de Saint-Savin entre autres.
Oui, Saint-Savin, je sais qu'à Bagnères de Bigorre aussi l'église sera ouverte, enfin dans énormément d'endroits, des petites villes, des petits villages, des petites chapelles seront ouvertes aussi. Vraiment n'hésitez pas, allez-y, poussez les portes, posez des questions, c'est vraiment l'occasion. On a un patrimoine religieux absolument remarquable dans les Hautes-Pyrénées, dans toute la Bigorre, dans les quatre vallées, profitez-en vraiment.
Voilà pour les journées du patrimoine et puis évidemment ces journées sont organisées partout en France et dans toute notre région Occitanie pour ceux qui nous écoutent un peu loin et peuvent se rapprocher du site internet dédié. On poursuit l'agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes avec ce samedi une table ronde sur le thème de la mort.
Oui, c'est une table ronde qui est proposée par la pastorale de la santé. Alors c'est même plus qu'une table ronde, c'est vraiment toute une matinée d'échanges et de réflexions. Samedi 20 septembre de 8h45 à midi, ça se passe à la maison diocésaine à Tarbes, la maison Saint-Paul. Vous aurez l'occasion bien d'échanger avec deux invités, notamment Doris Hiver, qui est psychologue, et le frère Joël, qui est moine à l'abbaye Notre-Dame de Tournailles, avec donc ce thème, la mort, on en parle ou pas, et quand vous pourrez poser vos questions, réagir, échanger, tout cela, et bien évidemment, nous parlera de l'espérance chrétienne. Vous pouvez vous inscrire en contactant la pastorale de la santé, le service de la pastorale de la santé du diocèse, pastosanté65@gmail.com, pastosanté65@gmail.com.
Voilà, ça c'est ce samedi. On passe maintenant au 24 et 25 septembre avec cette proposition pour goûter la parole de Dieu.
Les récitatifs bibliques, c'est une façon de recevoir, goûter, mémoriser la parole de Dieu grâce au chant, au geste, au rythme, vraiment pour découvrir la parole de Dieu dans toute sa richesse, pour l'ancrer en soi de façon plus vivante et voilà, mieux prier avec la parole de Dieu. Ça se passe au presbytère de Haussin, les 24 et 25 5 septembre, de 9h à 17h. Ce sont deux journées pour ceux qui travaillent mais qui sont intéressés. Il y a aussi la soirée du 24 septembre de 20h à 22h. Voilà, vous pouvez donc vous inscrire avec toutes les informations qui sont indiquées sur l'application Au Clocher et sur le site du diocèse dans la rubrique Agenda. C'est une proposition qui est ouverte vraiment à toute personne qui aime la parole de Dieu et qui désire l'approfondir ou s'en nourrir différemment en tous les cas. Donc c'est vraiment ouvert très largement.
Retour maintenant sur le week-end dernier, direction Garaison avec le 160e anniversaire du couronnement de la Vierge. Vous étiez sur place.
Ah oui, c'était un moment absolument magnifique. Chaque année, nous pouvons vivre ce pèlerinage du couronnement de la Vierge à Notre-Dame de Garaison, au sanctuaire de Notre-Dame de Garaison. Et effectivement, cette année, c'était tout particulier puisque c'était le 160e anniversaire. Et à cette occasion, une nouvelle couronne a été posée sur la tête de la statue, de la Pietà. Alors, quelle est cette statue? Pourquoi on a changé la couronne de la Vierge Marie? Le père Pascal Garçon, qui est religieux, père de Sainte-Croix et qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison, nous raconte tout. Père Pascal Garçon, vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Aujourd'hui, c'était le pèlerinage annuel, le pèlerinage du couronnement de la Vierge, le 160e, mais un pèlerinage un peu particulier cette année puisque on a changé, la Sainte Vierge a changé de couronne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la Sainte Vierge qui est couronnée? Quelle est cette couronne et pourquoi on fête aujourd'hui la nouvelle couronne?
Le sanctuaire de Notre-Dame de Garaison est un sanctuaire du XVIe siècle avec non seulement trois apparitions, mais une statue qui est vénérée et une statue miraculeuse qui est devenue elle-même miraculée puisqu'en 1490, elle a été jetée dans un brasier et elle n'a pas brûlé. Donc c'est une statue en bois. Et le sanctuaire de Garaison a rayonné jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, tout son mobilier a été dispersé, dont la statue en bois de Notre-Dame de Garaison, qui n'était donc plus à Garaison. En 1865, quand Monseigneur Laurence a décidé, parce qu'il voulait consacrer vraiment le diocèse de Tarbes à la Vierge Marie, il a demandé au pape de l'époque la permission de couronner ce sanctuaire de Garaison, qui était multiséculaire, et le pape a accepté. Donc une couronne a été faite à Rome, mais il n'y avait plus de statue. La statue de Garaison n'était plus à Garaison. Et donc, il y a un sculpteur qui s'appelle Justin Pibou qui a fait rapidement une statue un peu grande en plâtre et qui, elle, a été couronnée en tant que Notre-Dame de Garaison, mais qui n'était pas la statue historique en bois. Donc, 160 ans après, la Vierge en bois, la Vierge authentique, est revenue en 1970. Au moment du renouvellement du sanctuaire par les monuments historiques, mais elle n'était pas couronnée. Et donc, il y avait bien ce pèlerinage du couronnement avec la couronne, toujours du XIXe siècle, mais on ne pouvait pas mettre sur la Pietà, car elle n'était pas dimensionnée à la Pietà. Et donc, par un concours de circonstances, cette année, c'est l'année du grand jubilé pour toute l'Église, et nous avons un jubilé au carré, puisque nous fêtions le 160e anniversaire, donc 1865, 2025, du couronnement de la Vierge Marie. Alors pourquoi en 1865? Parce que c'était aussi les 30 ans de la réouverture du sanctuaire après les années noires de la Révolution et de ce qui a suivi. Donc, pour Monseigneur Laurent, c'était important de dire, voilà, nous relançons l'aventure chrétienne. Et j'espère qu'après cette année de jubilé où Monseigneur a invité les catholiques du diocèse à fréquenter Pietate, à fréquenter Yas, Puellarin, Garaison et Lourdes au mois d'octobre, eh bien, je pense que ça va être aussi un bon coup, non pas comme une fois, mais un coup de grâce pour tous les chrétiens du diocèse pour reprendre le flambeau.
Alors tous les ans, moi je viens ici au pèlerinage du couronnement de la Vierge. Cette année, vous l'avez expliqué, une saveur un petit peu particulière avec ce double jubilé. Et puis des visages qui sont nouveaux, alors voilà, des gens du diocèse qui ont aussi découvert le sanctuaire de Garaison à l'occasion justement de cette année jubilaire, qui ont suivi l'invitation de l'évêque et qui sont venus début juillet pour le pèlerinage diocésain qui avait lieu ici. Enfin voilà, il y a des gens qui continuent à découvrir ce lieu et puis d'autres qui reviennent chaque année parce que ils sont touchés par une certaines grâces. Quelle grâce particulière on vient chercher ici, Père Pascal?
La joie, la sérénité, certainement, la sérénité. Et la joie, parce que l'été a commencé par ce pèlerinage diocésain le 5 et 6 juillet. Et si vous pouvez aller sur le site du diocèse, voir ce petit clip, ce petit film, où on voit que des sourires. Et pour moi, ça a été une très grande grâce de voir tous ces sourires. Et quand on connaît les gens, quand on sait leur croix, leur souffrance, leur peine, et qu'on les voit sourire, pour moi, ça a été une des grâces de guérison et de sérénité. Et puis, il y a quelque chose d'intime. Ici, il n'y a pas de grande procession, il y a un cœur à cœur avec la Vierge Marie. C'est elle qui a choisi ce lieu. Si elle n'avait pas choisi, il n'y aurait pas de chapelle, il n'y aurait pas d'école, et on ne serait pas là ce soir pour en parler, parce qu'il n'y aurait que des chants. Hein. Mais il y a une sorte d'intimité entre... Et pour moi, recteur, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas Garaison avant d'être nommé recteur, mais j'ai senti profondément la présence de la Vierge Marie ici, auprès des pèlerins, mais aussi auprès des élèves, qui, comme les jeunes d'aujourd'hui, peuvent se sourire, se moquer de ça. Mais il y a une intimité quand même entre la Vierge Marie et les élèves. Et pour moi, pour tout cela, ben, je crois que Garaison a son message du ciel pour tous.
La Vierge Marie a dit qu'ici, elle répandrait ses dons. Vous êtes témoin que vraiment, elle continue aujourd'hui, en 2025, à répandre ses dons pour les élèves, les familles, les pèlerins, les habitants du coin. Vous êtes témoin de ça en tant que recteur ?
Oui, je suis témoin. D'abord, toute personne qui vient à Garaison peut voir qu'il y a des ex-voto qui sont très récents. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui reçoivent. Et puis, j'étais indirectement témoin, mais là, ce serait trop long à raconter, d'une guérison d'un petit garçon. Donc, vous savez, comme la résurrection, il y a un avant, il y a un après. Mais au moment de la résurrection, personne n'était présent. Moi, j'ai vu ce petit enfant arrivant en fauteuil parce qu'il avait une tumeur au cerveau. Je l'ai vu repartir en courant. Et depuis, les médecins qui le suivaient ont attesté sa guérison. Et je vois la joie des parents, je vois... Donc tout le monde n'a pas cette grâce de guérison, mais je crois que Marie veut quand même insister pour nous dire qu'elle est présente et qu'elle n'oublie pas la peine des uns et des autres et qu'elle, comme une maman, elle fait tout pour que ses enfants repartent heureux et pleins de force.
Merci beaucoup, Père Pascal. À bientôt.
Voilà pour cet entretien que vous avez enregistré donc dimanche, Anne-Rose, à l'occasion du 160e anniversaire du couronnement de la Vierge à Garaison.
Ah oui, c'était vraiment magnifique. Comme chaque année, moi j'aime beaucoup Notre-Dame de Garaison parce que comme le dit le père Pascal Garçon, c'est vrai qu'ici, il s'y passe quelque chose d'intime avec la Vierge Marie. Vraiment, c'est un lieu de repos. Si vous voulez voir les belles photos de cette journée et de ce couronnement de la Vierge Marie, je vous invite à aller sur le site du diocèse catholique65.fr. Vous pourrez voir comme la nouvelle couronne a été posé avec beaucoup de délicatesse sur la tête de la Vierge Marie. C'était vraiment beau à vivre et c'est beau à voir aussi en photo.
Voilà, ça se trouve entre Lannemezan et Castelnau-Magnouac.
Hein. Ah oui, bien alors c'est vraiment un territoire qu'on partage quand même un petit peu. C'est les Hautes-Pyrénées, attention, mais on partage quand même avec le Gers et la Haute-Garonne.
Alors, on va terminer cet agenda avec cette information qui est très importante pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est la béatification du père Vergès, un bienheureux dans le diocèse.
Exactement, c'est vraiment une grande joie, une béatification qui aura lieu très prochainement. Il s'agit de la béatification de 50 religieux, séminaristes et laïcs qui sont morts en 1944 et 1945 en haine de la foi dans un camp de concentration. Parmi eux, le père Pascal Vergès, qui est prêtre de notre diocèse, qui était né à Aucun, dans le Val d'Azun. Voilà, il sera béatifié avec les 49 autres le 13 décembre prochain à 14h30 lors d'une célébration à Notre-Dame de Paris par le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque du Luxembourg.
Voilà cette information incroyable.
Nous allons en reparler au cours des semaines à venir, mais c'est vraiment une très grande joie. Donc le père Pascal Vergès, bienheureux prochainement de notre diocèse.
Voilà, la date, c'est le 13 décembre, samedi 13 décembre, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio.
Oui, bien sûr.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, 4865.fr.
Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de choses.
Ouais, avec une très bonne nouvelle pour terminer voilà, cet agenda. La suite de cette émission, ce sera dans un instant avec vous et votre invité.
Le professeur Jacques Lecacheux. Nous allons parler d'économie.
Ça sera juste après le journal régional.